Je ne sais pas si je peux m'appliquer clairement. Il y a des textes qui nous obligent, par exemple, avec un médite, oblige à apprendre une langue. Généralement parlant, le texte existe en commun. Donc, il y a dans le texte un père et ses sœurs. C'est mon problème, comme on dit beaucoup de faire. Alors, je vous exemple, c'est vraiment bien, peut-être que vous avez des exemples, où le texte comment nécessairement à sa faire pour qu'une vienne ses vieux ou même.
Oui, je pensais que les exemples que j'ai donnés, si, bon, je ne peux pas, si vous voulez, donner toutes les citations, ce serait évidemment trop long, mais les exemples que j'ai donnés montrent que ce qui n'est pas un faire dans le discours explicite concernant Sophie, puisqu'elle semble avoir disparu, elle ne plus être présente dans le texte, par contre, redevient un faire au niveau du discours implicite. Maintenant, savoir si ce faire est véritablement performatif, si effectivement quelque chose est obtenu et réalisé, il nous faudrait malheureusement la correspondance de Sophie pour pouvoir faire le vérifier. Je pense qu'il est difficile de dire si cette entreprise a été couronnée de succès ou si elle ne l'est pas. Ce que je crois, et c'est à ce à quoi tendait ma conclusion, c'est que dans ce qu'on peut prouver par l'étude de cette correspondance, c'est que en fait, Diderot présume toujours qu'il est parfaitement compris, parfaitement suivi par Sophie, qu'elle anticipe en quelque sorte toujours son désir et qu'elle est constamment d'accord à la fois avec la vérité de ce qui est dit, elle ne se posera pas la question du vrai ou du faux, et en même temps avec les stratégies que comporte le texte, on veut la séduire, elle veut bien être séduite, et le problème c'est celui qui se posait déjà ce matin, c'est en contrepartie dans ses lettres, est-ce que l'on va trouver un désir qui équilibre, quelque chose, d'autres stratégies qui équilibrent les premières. Seulement nous ne disposons pas des lettres de Sophie, et nous ne pouvons pas aller jusque-là.
Oui, Monique Schneider.
C'est peut-être les deux. Oui. Ah. Oui. Oui, ce qui peut être nié. Oui. 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 C'est très juste. Oui. 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 C'est exact. Oui. Oui, je pense que c'est tout à fait juste. Ce qu'il y a, c'est que j'ai eu l'impression, mais il faudrait poursuivre une étude beaucoup plus circonstanciée, beaucoup plus longue, j'ai eu l'impression que il n'y a pas de régularité. On ne peut pas généraliser. Il semble que les réactions, pour autant qu'on en puisse juger à travers les lettres, les réactions sont très, très diverses. Sophie devait, j'imagine, être quelqu'un d'assez difficile à cerner, car j'ai lu par exemple les deux lettres où elle réagit manifestement, comme l'implicite cherchait à la faire réagir, par la jalousie. Il y a d'autres circonstances où les réactions sont beaucoup moins naïves et sont tout à fait différentes. Il y a des réactions où manifestement elle échappe, où elle ne joue pas le jeu. Je crois qu'il y aurait toute une étude à faire, mais bien entendu je n'ai pas pu la mener, car ça ne m'a pas semblé être d'un niveau étal. En fait, il y a deux très grandes différences. Cette correspondance s'est poursuivie très longtemps. Et elle a pris des formes extrêmement variables. La relation, d'ailleurs, a pris aussi des formes très différentes. Et je pense qu'on verrait des divergences tout à fait importantes. Oui. Correspondant, oui. C'est ça. C'est très juste. C'est exact.
Monsieur, oui, pardon.
C'est un
ah, Eural, bon.
Je me demandais ce que c'était que cette mère.
Non. Il me semble que ça répond à la remarque de Buisine. Ça veut dire qu'on écrit tout le temps. Mireille Bossis, à moins que vous... Non, vous voulez dire quelque chose ?
Non, pas du tout. Non, je pense qu'il faut être très attentive à ce discours implicite, que bon, l'indigent lecteur, comme disait Montaigne, ne le voit pas nécessairement. Oui, je ne comprends pas très bien. Non, je crois que le lecteur... Non, c'est vraiment implicite, n'est-ce pas ? Il n'y a rien de dit sur Diderot, absolument rien, il n'y a pas d'image. Il y a uniquement, au niveau de la réception, je crois que je l'ai dit ça, c'est vraiment une trace, c'est un affect. Ça ne peut pas être décodé par Sophie, et elle ne peut pas faire la catalyse de ce discours implicite, du moins on n'imagine pas qu'elle puisse la faire, et en fait elle ne peut recevoir cela que comme véritablement, comme une espèce d'émotion. Je ne pense pas que ça puisse être autre chose que cela. Alors quant au lecteur, au tiers, ce que tu as appelé le tiers lecteur, je pense que j'ai essayé justement dans la première partie de montrer qu'il ne peut pas être attentif à cet aspect-là du texte, puisque ce qui l'intéresse justement, c'est le fait que le texte ait pu échapper à tout ce réel, le fait que que pratiquement on puisse oublier qu'il s'agit d'une correspondance et voir là un texte uniquement un texte littéraire.
On peut. Donc, oui. Il y a une autre question de Cohen.
Oh, je n'entends pas, c'est plus. Vous pouvez parler plus fort, j'entends rien du tout.
On entend très mal.
Oui. Oui.
Dans le problème de la simplicité de la sagesse, à partir de la thèse que Bonnetton a l'air, c'est que, et je crois que c'est sûr que vous comprenez,
au fond de la rébellion à l'église de l'Église d'Espagne.
Mm-hmm.
Puisque c'est son identité, puisque nous sommes dans une grammaire qui s'appelle le pays sur l'incitation, sur l'indicité. Quelque part, nous allons toujours jouer sur l'intégration, donc être encore plus adolescent.
C'est exact, oui. Je crois que c'est ce que j'ai essayé de montrer, en disant qu'en fait, l'implicite est une reconstitution qui ne se fait pas à travers la langue, et qu'à partir de là, effectivement, on est dans une philosophie.
C'est tout à fait bien. Juste. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, il conviendrait qu'on, s'il y en a d'autres, qu'on aille très vite maintenant, pour ne pas se mettre en retard.
Je crois que Alain Buzyn a posé une question très intéressante tout à l'heure, oui, mais elle me paraît concerner tout le monde, enfin, toutes les communications, et peut-être est-ce qu'on pourrait la réserver, il y aura peut-être un moment où on pourra reprendre tout ça, parce que là, c'était important, ça, savoir si finalement, il y a un contrat de l'écrivain avec l'écriture qui se maintient, quelle que soit la situation d'écriture. Oui, mais c'est un postulat, ça. Oui, c'est... limite que bon, c'est un consensus social qui finit par faire qu'une correspondance sera littéraire, et puis c'est tout. C'est d'ailleurs quelquefois le cas. Car,
Un dernier petit mot.
Oui.
Et on avait fait cette différence à propos de ce genre de performatif. Il est évident que le performatif implicite a le même axis, on pourrait dire, théorique, que l'on a voir ici, la notion de.
Quoi?
Oui. Non, pas direct,
mais
implicite.
Oui.
C'est-à-dire que si, quand je dis 5 heures, bien sûr, les 5 heures, ça peut vouloir impliciter quelque chose. Alors, n'oublions pas que c'est la notion d'implicite, la notion de présupposition,
oui.
Qui elle est extrêmement précise, parce que ce qui n'est pas réel, quand même, alors là, ça paraît intéressant.
Oui.
Oui.
Oui. C'est exact. Je n'ai pas pu faire la différence, et il est facile de comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des cas où j'ai simplement essayé d'éviter tout ce qui était de la présupposition, de l'ordre de la présupposition générale. Mais il y a des cas où il s'agit véritablement de présupposition. Et là, par conséquent, on joue, si j'ose dire, sur des choses qui sont scientifiques. Mais par contre, où s'arrêter ? Le danger, enfin la difficulté ici, c'est où s'arrêter ? À partir de quel moment ne parlera-t-on plus d'implicite dans un sens scientifique ? À partir de quel moment est-ce qu'on va verser dans le philosophique ? Je dois reconnaître que bon, je me suis facilité la tâche avec une parfaite bonne conscience, en prenant globalement le tout, mais effectivement, la question se pose, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Seulement, on ne dispose pas, il faudrait des études extrêmement fines pour se dire, bon, je m'arrête là, parce qu'à partir de ce moment-là, je suis dans l'ordre vraiment d'une philosophie naturaliste, et bon, c'est de des espèces de présomption générale que j'attribue à des énoncés, et ça ne marche plus.
Bien, on va, merci, je crois, peut-être passer à la communication suivante. Je propose, si vous en êtes d'accord, qu'on ne fasse une petite pause qu'après.
Non.
Bien, alors je donne la parole à M. Rolf Klopfer, qui va. Et je le laisse lui aussi annoncer son titre,
oui.
Que je ne sais pas lire de toute façon.
Oui, le titre, vous l'avez sur le handout, Mimesis et Sympraxis de la coproduction du sens dans les liaisons dangereuses de Laclos. D'ailleurs, je suis très content de tomber après vous, chère madame. Je crois qu'on est essentiellement ensemble dans le 18e siècle, mais il y a certaines questions que je vais peut-être poser aussi. J'ai une heure, si je ne me trompe pas, à ma disposition. Peut-être pourrais-je exposer quelques idées dans une demi-heure, car votre opinion m'intéresse beaucoup. Le résumé est assez long. Je ne connaissais pas les habitudes d'écologues à Urbino. Comme j'ai entendu certaines interventions qui m'ont beaucoup intéressé, j'ai changé le programme. Première partie, j'expose quelques prémices. Deuxième partie, assez longue, J'essaye à vous montrer comment la correspondance fictive des liaisons dangereuses se servent de la sainte pratique, whatever that means, pour communiquer avec nous sur la non-communication, ou plutôt la communication anéantissante. Cela sera une réponse à mon ami Charles, que j'attends, car ce qui peut être mortel dans la diégésis... Ah, voilà, maintenant je peux commencer. Ce qui peut être mortel dans la diégésis, dans la référence, dans la mimésis, peut être moyen de vie, Lebensmittel, on appelle ça Lebensmittel en Allemagne, dans la sainte pratique. Donc ça, c'est la thèse principale. La troisième partie sera très courte, et, un petit résumé. Donc, les prémices. Toute communication, comme toute correspondance et toute littérature, effective et double. Elle fait part de deux choses à la fois. A, le savoir d'une vue, d'une mimésis. B, d'un faire. Et c'est cela, à cela que je m'intéresse. Quelle est la différence entre un homme de lettres et un philologue? L'homme de lettres vit dans une action multiple dont les lettres sont instruments à fonctions diverses. Le philologue doit ressusciter la lettre morte, mais hélas, il la réduit souvent à un savoir et supprime ce qu'il y a de plus vital dedans, sa fonction poétique au sens étymologique, sa puissance de nous faire faire quelque chose. Ce faire, ce côté pragmatique dans un certain sens, n'est pas ajouté a posteriori, au moins dans la littérature, mais c'est ce qui a de plus significatif. Quand je reçois une lettre de licenciement, par exemple, je suis licencié. Quand je présente une bonne lettre de crédit, j'en ai. Pareil pour la lettre de change, la lettre de créance, de cachet, de grâce, de jution, de naturalisation, de remission, des lettres de patente, de noblesse, etc. Échanger des lettres est plus que se procurer des informations, c'est engager sa personne dans une mesure bien précise. Cette pratique symbolique est accentuée et élaborée en littérature. On a souvent souligné que c'est moins la mimésis qui fait la valeur d'une œuvre d'art, mais sa relation avec cette productivité qui jusqu'à présent n'a pas tellement été étudiée, car on la juge subjective, produit du hasard historique, ou bien on l'a identifiée avec l'émotion ou d'autres trucs uniquement. J'ai étudié ailleurs pourquoi Aristote mettait la catharsis au-dessus de la mimésis. D'après son maître Platon, il déclare « L'art est un moyen puissant de développer, de guérir, de créer l'homme infiniment possible. Il s'agit bien de l'homme entier, ses capacités intellectuelles et cognitives, émotives, sensitives, perceptives, volitives surtout et imaginatives. » Cela correspond parfaitement à notre intuition. Goethe dit « Qui ne sait pas trouver meurtre pendant certaines lectures ne sait pas lire. » Écrire est donc une manière non seulement de créer un monde fictif pour un lecteur possible, pour soi-même, mais de lui offrir, de le mettre en scène, ce lecteur, de lui procurer systématiquement des expériences qu'il ne pourrait jamais avoir autrement, peut-être. J'ai cherché longtemps un terme pour cette coproductivité sémiotique qui nous met en œuvre par symbolisation, par symbiose temporaire avec un autre organisme vivant qui s'est créé dans les textes, par sympathie et antipathie, etc. J'ai pensé à cette orchestration dont parlent les formalistes russes et qui fait éclore en moi, dans la lecture, toute une symphonie qui me fait éprouver énergiquement mes capacités, mes histoires, etc. Je me suis décidé d'appeler cette forme de comportement fictif initié sémiotiquement sympraxis, sympratique. Permettez-moi de donner deux exemples les plus simples dont je me sers dans mes cours, et comme vous êtes tous enseignants, plus ou moins, je peux les faire en raccourci. Évidemment, quand je commence à expliquer ce que c'est la syntaxis, c'est toujours difficile. Je commence à décrire, je commencerai dans cette situation, par exemple, selon le goût du moment, une boisson, par exemple, du champagne bien, bien frais, etc. etc. Bon. Et au moment, justement, et au moment où quelqu'un commence à faire, hein, avaler la chaleur aidante, j'ai gagné. Ils ont une expérience d'une simple pratique, parce que je n'ai que parlé. Le contraire est encore beaucoup plus simple. Si ça ne marche pas, je commence à tousser avec un certain toux assez profond. Je vous imagine où les poumons sortent. Au moment où je vois quelqu'un et certains faire certains signes de dégoût, je m'arrête parce que c'est évident. Ici, ce sont des réactions physiques les plus simples, les plus évidentes. Évidemment, il s'agit d'un faire imaginaire de l'autre procuré à travers des signes. Évidemment, il y a beaucoup d'exemples beaucoup plus sophistiqués, par exemple, ce serait toujours bien, mais pas dans un colloque. Je me sers d'un langage de plus en plus scientifique, en guillemets, et finalement, on ne comprend plus rien, on commence à s'ennuyer, et justement, c'est le bon moment pour dire, voilà, maintenant vous avez l'expérience voulue. Bon, multiples effets, vous remercie. Tous ces effets sont autant partie du signe que la fonction référentielle, les motifs, etc., etc. La culture sympathique ne doit pas être réduite à la sympathie. Et pourtant, la sympathie est peut-être un très bon exemple, car vous pouvez imaginer facilement ce qui se passerait si je ne pouvais pas, par exemple, retenir ma salive en parlant. Que je n'arrêterais pas un certain tic, par exemple, de me gratter. Aussi, par malchance, je m'approcherais trop du microphone et je parlais comme ça. Vous ne pourrez certainement pas juger d'une manière aussi neutre, même complaisante, du contenu de mon exposé. Pareil d'ailleurs à mon français. Avec un peu de complaisance, vous jugerez mes fautes comme effet d'un effort de faire correspondre ma théorie avec ma pratique. Voilà déjà le premier chapitre. Deuxième, je commence, je l'appelais le dialogue à la lettre. Il faut partir du fait que communication est possible, même nécessaire et double, dès l'origine. L'enfant tète un contenu au sein de sa mère et il crée dans cette pratique même une relation, un système sémiotique qui se développe après avec le regard et finalement avec la parole. Communication, échange heureux, relation positive, malgré, non à cause de la distance qui sépare un espace et un temps mère et enfant. La correspondance est recréé dans l'imaginaire par l'enfant pour redevenir partie intégrale dans le prochain rencontre. Absence est nécessaire pour la présence. Latence et actualité d'une relation doivent succéder pour que chacun puisse se développer. La création mutuelle à travers cette correspondance de deux démiurges est le modèle du dialogue littéraire. Nos ancêtres de la Renaissance le savaient bien. Erasme, Rabelais, Cervantes, surtout. Dans les romans, il y a toujours un rythme entre phase de plénitude et d'attente, dans laquelle j'ai le temps de récréer selon les données du texte. C'est un jeu, un faire ludique dont l'allusion et l'illusion sont deux procédés puissants. Mais retournons à la correspondance. On fait par correspondance multiples actes de communication. Et ce n'est pas en vain que le chant métaphorique préféré soit de la musique. Par correspondance, on crée des accords. Les collègues, les amis, peuvent se concerter. L'équilibre, l'harmonie, la compatibilité, l'affinité, etc., comme tant d'autres valeurs positives, sont le résultat de cette communication par lettre, qui n'est rien d'autre que le dialogue littéraire. La correspondance est un arrangement pour vaincre des difficultés, pour créer une entente, pour créer le contact malgré le silence imposé. La correspondance met en évidence la participation possible à la vie d'autrui grâce à ce qu'il y a de fondamental dans la culture, le signe, la lettre, l'échange à travers le temps et l'espace. Ce qui apparaît comme négativité, la séparation, la différence, l'altérité, sont les prémices. Apparemment, que je suis loin, ma chère, je pourrais écrire. Comment pourrais-je m'approcher de toi autrement? Alors, une lettre, laisse-moi un peu tranquille, m'a dit autre jour une amie, je t'écris une lettre en ce moment, je ne veux pas me concentrer quand tu es là. Il faut donc que tu sois un peu loin pour que je puisse trouver une forme de correspondance. C'est ce statut fictif qui fait que certains se refusent personnellement de faire la distinction de qualité entre le littéraire et le non-littéraire, l'esthétique et le pratique, au moins pour tous ceux qui échangent de signes. Nous avons discuté ça tout à l'heure. Deuxième petit point, dans le deuxième chapitre, la dialogicité de la correspondance est tout à fait littéraire. Étant ici, j'écris pour toi là-bas, aujourd'hui, pour demain ou en quelques jours, quand tu recevras ma lettre. Je réponds à ta description de ce lieu, de ces personnages, de ces événements qui sont devenus miens sans les avoir vus ou vécus. Par la lettre, je me rends compte même de mon présent, de mon état, car je dois le transformer pour que tu le comprennes loin de moi. Je me mets à ta place. Je me sers de tes yeux, de tes sens, de ton intelligence, car tu m'as écrit une lettre qui me fait découvrir mon talent primaire, mon imagination, meine Einbildungskraft, donc la capacité d'une production qui crée d'abord ce non-lieu, cette utopie qu'est la conscience. Toute correspondance est d'abord dialogique, pour dégénérer peut-être ensuite en autre chose. La lettre qui donne la mort est non seulement l'exception, mais ne fait non seulement partie du roman feuilleton, mais elle présuppose toute l'histoire des lettres qui donnent naissance et connaissance, plaisir et envie de vivre, qui crée des liens à travers les siècles, même quand nous pouvons participer indirectement à la correspondance d'un Abélard et d'une Héloïse. Comme pour le dialogue, on peut dire à propos de la correspondance, autant qu'elle est développée et moyen de vivre, elle peut devenir la destruction, l'anéantissement, un bruit sourd qui évite tout silence fertile. Voilà la thématique de Laclos. Le livre a comme but mimétique la non-correspondance, la non-communication positive, la victoire de la sociale. Quelques 8 personnes échangent des lettres pour finalement se perdre. Cécile Volange, la naïve et innocente jeune fille, rentre finalement au couvent, lieu de non-communication, pour certains. La marquise de Merteuil, femme fatale et diabolique, fuit la France, criminelle, défigurée, socialement morte. Le vicomte de Valmont, le don Juan, qui n'ose s'avouer qu'il aime, meurt dans un duel avec celui qu'il reconnaît, avant de mourir, ami. Celui-ci, le chevalier de Danceny, l'ingénu, se retira à Malte. La présidente Tourvel, la dévote qui aime trop, meurt dans un couvent après un délire terrible causé par la communication ou la non-communication, on ne sait pas exactement, avec Malmont. La mère de Cécile, Madame de Volanges, reste ignorante presque jusqu'à la fin, comme cette grande mère élective, Madame Rosemonde et tant d'autres amis, serviteurs, etc. Tout un monde est détruit. Le moyen de destruction, le moyen du mensonge et de corruption est justement la correspondance. Et pourtant, cette correspondance m'a fait revivre mes 17 ans quand je lisais ce roman pour la première fois. Je me souviens des gestes simples de l'époque, ça date il y a 25 ans. L'identification d'abord avec les jeunes et la distanciation du libertin, mais seulement au début. de la lecture. Transformation de ce petit Rolf qui osait, à fur et à mesure, s'avouer que la dominance, l'assurance, le savoir-vivre est traiter ce qui semble être le plus grand valeur, la femme. Et tout de même, tout cela s'est développé en moi comme une tentation assez importante. Et il y avait le désarroi final prévu par le roman. Quand j'ai repris le livre pour ce colloque, mes gestes sympathiques avaient partiellement une autre forme, mais elles réalisaient la même gestalt. D'abord, le roman me fait entrer en jeu plus qu'avant, car je m'aperçois de plus de vide, de gap. Charles m'a dit qu'en français, on peut dire oui, le trou, le manque, la lacune. Vous connaissez la discussion, j'ai apporté un article là-dessus, ceux qui s'intéressent. Leerstellen donc, dans le sens de Ingarden, mais qu'il faut différencier, il y a des lacunes sans importance et d'autres voulues, où justement je rentre, je travaille, je suis attiré systématiquement. Là où mon imagination autrefois ne trouvait pas de nourriture, il y a maintenant surabondance. À l'époque, je n'étais pas capable de maintenir plusieurs perspectives à la fois. Aujourd'hui, je jouis de mon incapacité de conclure, de savoir finalement, de prévoir exactement. Par la lecture et probablement autre forme de vie, je vois plus. Donc, les lettres me donnent plus à prévoir, à envisager comme possibilité, à concevoir des réalisations possibles et à m'adonner avec plus de patience. Faut dire que je crois plus aujourd'hui au conte de fées qui, en russe, commence « Il était une fois » et « Il n'était pas ». Je deviens de plus en plus croyant dans ce sens. Par la lecture, je sens plus selon la lettre. Je sais plus pressentir, anticiper, imaginer et éprouver d'avance, prévoir la réaction de l'adversaire, etc. Je réalise plus les allusions érotiques ou psychologiques, par exemple. Le sens moral plus développé, ma conscience plus dispose à maintenir le double conflit du roman. Évidemment, il y a d'autres romans qui jouent plus avec mes sens et ma sensibilité, mes talents, quoi. Mais je constate avec plaisir que la structure tensionnelle du roman a gagné avec mon expérience. Mon attention est toujours bien guidée, l'intensité de certaines lettres mais aussi pas moins grande, mais je sais en même temps d'où vient ma prétention, ma protension et toutes les formes de tension que je réalise en lisant. Je donne maintenant quelques exemples. Valmont, apparemment le séducteur méchant, et Merteuil, pire encore puisque femme, échangent des lettres pour se raconter tout, finalement, pour mériter l'estime de l'autre. Valmont fait une œuvre de charité, par exemple, pour gagner l'estime de son ami Merteuil. Les pauvres gens montrent leur gratitude. Je cite Valmont, « J'avouerai ma faiblesse. Mes yeux se sont mouillés de larmes et j'ai senti en moi un mouvement involontaire, mais délicieux. J'étais bien étonné du plaisir qu'on éprouve en faisant le bien. » Baudelaire donne le commentaire suivant. Cet aveu prouve à la fois l'hypocrisie de Valmont, sa haine de la vertu, et en même temps un reste de sensibilité par quoi il est inférieur à la Merteuil. Il a raison. Tout le long du roman, je reçois d'indices de cette faiblesse, qu'elle est là, qu'elle se développe continuellement des petits signes. Voilà que j'attends continuellement qu'il succombe à la tentation de l'amour. Je le sais très tôt, je lis dans son âme, et finalement, la marquise me confirme et le reproche à Valmont, et c'est encore elle qui touche son point sensible dans plusieurs lettres à la fin, disant « voilà, tu l'aimes, donc tu es incapable », et voilà la réaction de Valmont que vous connaissez. Le roman se sert de cette scission dans le protagoniste qui, finalement, se rend compte. « Écartons cela, dit-il, Valmont, que je redevienne moi-même pour traiter un sujet plus gai. Je découvre la même scission dans toutes les personnes, la présidente, dans Cécile, dans la Merteuil même. Nous apercevons qu'il n'y a pas d'identité monolithique, mais toute personne réagit selon la tension actuelle. C'est à nous de décider, de juger, d'interpréter les interprétations multiples et fausses dans les lettres successives. De répondre jusqu'à la question finale, citation, « Mais que direz-vous de ce désespoir de M. Valmont, d'abord, faut-il y croire ou veut-il seulement tromper tout le monde ?» Le roman me fait éprouver, l'homme est une liaison d'éléments multiples, la liaison dont son caractère dépend des contraintes extérieures, tout le monde se trompe dans ses forces, sauf peut-être le lecteur à fur et à mesure qu'il lit. Il voit, il comprend, il prévoit, il développe presque un système pour expliquer la mécanique de cette communication, qui, dans les lettres, n'existe qu'en négatif. Le roman est une épreuve négative, la plaque ou la pellicule qui porte une image qui n'existe que si nous la développons. Tous les systèmes discursifs et narratifs du roman nous obligent de faire certains gestes, certains actes imaginaires dans le temps de la lecture. Ce qui intéresse le sémioticien sont maintenant trois questions. La première, est-ce nécessaire ? Suis-je obligé de réaliser cet ensemble d'éléments et de gestes sympathiques ? La deuxième, comment suis-je contrôlé par le texte même que je fais ou que j'ai vraiment réalisé le nécessaire ? Troisièmement, y a-t-il une différence entre une lecture purement cognitive et une lecture complète qui intègre la sympathique et surtout la tension entre les deux ? Pour économiser du temps, le temps, je réponds aux deux premières questions à la fois et j'ai fait un petit dessin. Je sais que c'est une innovation, mais on peut toujours essayer avec un peu de matériel. D'ailleurs, j'avais peur que vous... Bon, alors, il y a Cécile qui raconte quelque chose. Et moi, peut-être, je dis, voilà, Hélène. Bien. Si je réalise l'implicite, n'est-ce pas, sans regarder le parcours de mon analyse par ma part, le système, je réalise. Non, mais je ne suis pas con, c'est comme ça que nous sommes. Bon, je réalise, mais tout de suite après, Valmont écrit. Voilà comment ne pas s'apercevoir qu'elle aime. C'est simple. Il dit ça de telle manière que moi, je me demande, mais est-ce que c'est de l'amour ? Ce qu'ils prévoient, ce qu'ils font. Est-ce que c'est vraiment l'amour ? Implication dans l'implication. Est-ce que c'est l'amour ? Ou bien est-ce que c'est autre chose ? La merveille ? Et tout de même, femme qui est plus sensible que Valmont, dit voilà, piste absolument fausse, tu vois pas, mon cher Valmont, c'est pas du tout l'amour, c'est tout autre chose, du coup, par exemple, c'est l'amour, ils sont des êtres purement conventionnels, naïfs, conventionnels, etc. Bon, c'est déjà le troisième plan. Un, deux, je vais pour le troisième. Maintenant, bon, si c'est naïf, je me demande, mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils vont, se développer ? Est-ce que ce sera un bildungsroman ? Est-ce qu'il y a une possibilité ? J'arrive à un troisième stade, évidemment confirmé par, maintenant je mets X. Au troisième stade, je me demande encore des questions que je recommence à faire. Y dit oui, tu as raison, mon petit, c'est très bien, et ainsi de suite. Pendant ce procédé, il y a toujours une offre de la part du texte, une sympathique diverse, mais une offre répétée pour vérifier si je travaille bien, renforce donc ma sympathique, et finalement, au début, après une page, quand je suis bien rodé après trois pages, quand j'ai bien travaillé après 10 pages, une confirmation explicite et cognitive. On a étudié tout ce phénomène dans des... presque toutes les œuvres classiques de la littérature française. M. Bray a entendu une conférence d'une collaboratrice sur Colette. Mais seulement la Colette de Chéri, dans les autres textes, ça n'existait pas, au moins. Donc, On pourrait prouver maintenant comment le tissu sympathique peut devenir plus complexe. La multiplicité, la tension et la complexité sympathique est aussi stricte que celle de la mimésis, de toutes les références, etc. Je donne peut-être un deuxième exemple. Je ne cite pas les lettres, qui veut les avoir, je peux lui communiquer ça après. Valmont donne à Merteuil un conseil. Citation, « Pour échauffer Danceny, qui n'avance pas avec sa petite Cécile, il est trop naïf, il faut créer des obstacles, il faut créer plus de mystères, il faut faire de manière que ce serait moins sûr, qu'il serait moins sûr d'être aimé, etc. etc. » Nous sommes à la hauteur pour nous poser avec lui, une page plus tard, la question « Que faire à présent pour que ça marche ?» Deux lettres plus tard, Valmont se plaint à la marquise qu'il ne comprend plus rien au comportement de Danceny, qui semble être hors de lui. Avec lui, le lecteur se demande « Est-ce que la petite Cécile s'est fâchée ?» Maintenant, nous sommes déjà inférieurs au taux d'information normal du texte. Avec la lettre suivante de Danceny, qui demande à Valmont de le secourir, nous nous enfonçons encore plus dans l'ignorance, nous devenons encore plus curieux, mais nous avons en même temps qu'il s'adresse, Danceny, à son pire ennemi. Le jeu devient beaucoup plus intéressant. Il y a donc duplicité de compassion dont la branche pitié est développée avec la lettre suivante de Danceny à Cécile, qui se plaint à son amie Sophie que quelqu'un a découvert son amour à sa mère. La clause donne le temps d'une lettre pour réaliser l'ensemble sympathique prévu par le texte. Je simplifie. A, ou A1, curiosité, qui a informé la mère. 2, soupçon, A, deuxième A, non A, dans la même branche, soupçon, ça doit être la marquise, mais on n'est pas sûr. B, troisième petit mouvement, on a de la pitié, peut-être, que peuvent faire ces jeunes gens, ou au moins, si ce n'est pas pitié, une curiosité. Et après, une curiosité, ou plus affectif, une crainte, est-ce possible que la marquise aille encore plus loin ? Et finalement, on doit avoir une prévision, elle peut être simpliste, que celle que j'avais il y a 25 ans, ou complexe, peu importe, une prévision de l'ensemble des comportements multiples dans cette constellation complexe. Sensibilité, sentiment, partiellement contradictoire, raffinement du discernement psychologique, et ce que Musil appelle le sens du possible, Möglichkeitssinn, sont réalisés en même temps en nous. Les lettres suivantes, sagement, répondent à ces projections multiples et fournissent une à une des confirmations et nous donnent satisfaction multiple et de nouvelles tâches. Bon, à A1, depuis 4 lettres, le lecteur a bien compris que vraiment il y a de quoi être sérieux, souligné plusieurs fois dans le texte. À A2, évidemment, il avait bien vu que c'était la marquise. B1, l'intrigue diabolique est encore pire qu'on l'avait soupçonné. La lettre nous donne des détails, comment elle crée la marquise, ce mauvais cauchemar, ce cauchemar pour les jeunes gens. Il faut encore craindre beaucoup plus, car tout le monde croit cette bonne femme, la salvatrice, la consolatrice, même, on l'appelle une sorte de divinité. C'est finalement la prévision que les deux démons peuvent entièrement mener ce monde et confirmer, et après 100 pages, évidemment, finalement, nous voyons que c'est une erreur. Mais cette confirmation est dépassée car un soupçon est réalisé. Il semble, dit Cécile à Sophie, que je l'aime, Madame de Merteuil, plus comme Danceny que comme toi, une femme. Et ce soupçon est même confirmé. La marquise n'a non seulement su éveiller l'érotisme latent de la jeune naïve, mais elle profite des faiblesses de la fille pour satisfaire quelques penchements, peut-être lesbiennes. J'attends avec impatience, je n'avais pas du tout vu quand j'avais 17 ans, aujourd'hui je vois, mais fausse piste. Il y a donc finalement, doute. Jusqu'où va-t-elle aller ? Confirmation et doute encore, etc. Je m'arrête. Il reste la troisième question, à savoir, où mène une lecture purement cognitive et intellectuelle, donc une qui ne croit pas à la sympathique comme équivalent sémiotique. Un exemple connu se trouve dans le livre de Todorov. Il prétend que, finalement, la morale libertine soit remplacée par la morale